Partie 6. Travailler son image. Oh, que de grands seigneurs n'ont que l'habit pour tout talent. Par cette phrase acerbe, Jean de La Fontaine ne cinglait pas seulement la noblesse de son temps. Il prolongeait aussi une pensée formulée maintes fois auparavant, l'apparence a de l'importance. Bien maîtrisée, elle drape la parole d'une étoffe dorée, déguise les insuffisances de la pensée, camoufle les défauts de probité. Elle nimbe les individus d'un halo diaphane. Au quotidien, pour partie au moins, c'est l'habit qui fait le moine. Depuis Aristote, tous les auteurs se rejoignent sur cette considération essentielle. L'éthos, c'est-à-dire l'image projetée par les oratrices et les orateurs, participe à emporter la conviction. La recherche en psychologie nous a permis de confirmer cette intuition en montrant à quel point l'apparence avait du poids dans les interactions sociales. Nous présenterons dans un premier temps une brève synthèse de ces travaux avant de nous interroger sur les manières par lesquelles nous pouvons travailler notre image. Non par frivolité, pour le seul plaisir de l'ostentation, mais par nécessité, afin d'emporter la conviction. Chapitre 1. La psychologie de l'apparence. Représentons-nous cette scène. Nous sommes confortablement installés dans le fauteuil d'un auditorium. Sur scène, un orateur se démène comme un diable. Il arpente, gesticule, harangue. Peut-être est-il un politicien en quête de nos voix, un entrepreneur désireux de nous vendre son innovation, un intellectuel habité par la volonté de donner de l'écho à ses idées. Peu importe, le fait est qu'il parle et cherche à nous convaincre. Dans le secret de notre intériorité, nous examinons ses arguments, réfléchissons aux objections, pesons le pour et le contre. Puis, au terme de son intervention, décidons si nous allons laisser cet orateur emporter ou non notre adhésion. Froidement, rationnellement, nous venons d'arrêter notre jugement. Du moins, c'est l'illusion dont nous nous berçons. Car cette scène, hélas, n'est rien d'autre qu'une fiction. Bien sûr, nous aimerions croire que nous sommes des êtres de raison, que nous prenons nos décisions en nous fondant uniquement sur des argumentations. Et pourtant, nous l'avons vu dans le chapitre précédent, 5 décennies de recherche en psychologie ont montré combien cette vision était erronée. La plupart du temps, notre cerveau fonctionne sur un mode intuitif. Plutôt que de se livrer à de coûteux raisonnements délibérés, il prend des raccourcis qui simplifie et fluidifie la pensée. Ce sont les fameuses heuristiques de jugement. Or, de ce point de vue, l'image que nous percevons d'une oratrice ou d'un orateur est une information particulièrement commode. Il suffit d'un coup d'œil pour l'intégrer. Elle évoque des stéréotypes, suscite une impression d'ensemble, génère des affects. Autant d'opérations qui, pour notre esprit, peuvent être effectués très rapidement sans avoir à mobiliser notre système analytique. Confronté à la délicate question « Est-ce que je trouve cette argumentation convaincante ?», nous avons tôt fait de lui en substituer d'autres beaucoup plus simples. Par exemple, « Est-ce que j'ai le sentiment d'apprécier cette personne qui cherche à me convaincre ?» Ou encore, « Les attributs que j'observe chez cet individu m'inspire-t-il confiance ? Le fait que ce soit une femme ou un homme, élégamment habillée ou pauvrement vêtue, à la voix puissante ou chevrotante, m'invite-t-il à le croire ? » Au quotidien, Notre pensée intuitive nous pousse à fonder nos jugements sur les personnes qui argumentent plutôt que sur les arguments, et ce, sans même que nous en soyons conscients. La découverte des heuristiques se révèle ainsi une nouvelle fois fondamentale. Après l'importance du pathos, elle vient confirmer une seconde intuition d'Aristote. En rhétorique, la confiance que nous suscitons, la séduction que nous exerçons, l'apparence que nous présentons compte tout autant que notre argumentation. Le logos n'est pas le seul, ni même le principal, vecteur de conviction. L'éthos aussi doit être pris en considération. Face à un tel constat, nous pouvons réagir de deux manières différentes. Regretter que les auditeurs se laissent si facilement berner par de telles futilités, ou nous en féliciter et utiliser sans rechigner notre image comme une nouvelle source d'efficacité. Mais dans un cas comme dans l'autre, que nous le déplorions ou nous en réjouissions, un fait demeure inexorable. Si nous voulons parvenir à convaincre, il faudra apprendre à plaire. 1. L'effet de halo. Nous venons de souligner l'importance, pour les oratrices et les orateurs, d'utiliser leur image comme une arme de conviction. Encore nous reste-t-il à adopter un point de vue pratique, c'est-à-dire examiner comment nous en servir. Cette question appelle, pour partie, une réponse rhétorique. Il est possible, par un travail fin sur notre communication, de façonner l'éthos que nous projetons sur notre auditoire. Nous y viendrons un peu plus loin. Mais avant cela, il nous faut envisager les mécanismes purement psychologiques qui entrent en ligne de compte dans la perception que les autres ont de nous. Ou, pour le dire autrement, les biais cognitifs susceptibles d'affecter notre image. En psychologie, on parle de biais cognitifs pour désigner les conséquences néfastes des heuristiques de jugement. En elles-mêmes, nous l'avons vu, ces heuristiques n'ont rien de négatif. Elles ne sont que des opérations de simplification qui nous permettent de faire face à la complexité débordante du monde. Mais elles peuvent aussi nous égarer, introduire des distorsions dans le traitement des informations qui nous parviennent, provoquer des erreurs systématiques de raisonnement. Pour le dire en une phrase, les biais cognitifs sont des pièges que le cerveau tend à notre pensée. Et, en l'occurrence, l'image que nous renvoyons tend à être modelée par l'un d'entre eux, l'effet de halo. L'effet de halo a été identifié dès 1920 par le psychologue américain Edward Thorndike. Il désigne notre tendance naturelle, lorsque nous cherchons à établir notre jugement sur un individu, à laisser notre attention être captée par une ou plusieurs caractéristiques marquantes qui rayonnent et viennent colorer l'entière perception que nous avons de lui. C'est pour cela que l'on parle d'un halo qui peut être aussi bien mélioratif que dépréciatif. Comme le note Daniel Kahneman, l'effet de halo nous pousse à faire correspondre toutes les qualités d'une personne au jugement que nous avions d'un attribut particulièrement significatif. Cela revient concrètement à nous reposer sur des stéréotypes pour établir notre opinion. Prenons un exemple. Plusieurs études ont montré que le simple fait de porter des lunettes amenait nos interlocuteurs à nous considérer comme plus intelligents, plus travailleurs et donc plus compétents. Revers de la médaille, nous en paraissons également moins populaires, moins ouverts et moins athlétiques. Bien sûr, chacun constate que de telles considérations sont injustifiées. S'il suffisait de se poser une monture sur le nez pour devenir subitement brillant, tout le monde se convertirait à un tel ornement. De manière rationnelle, nous savons qu'il n'y a là qu'un préjugé infondé. Il n'empêche, notre cerveau va plus vite que nous et nous pousse inconsciemment à surestimer la compétence d'un individu dont le regard nous toise derrière deux cercles transparents. Or, dès lors que nous connaissons l'existence de ce biais, il devient possible de chercher à l'exploiter afin d'améliorer sciemment l'image que nous renvoyons. Examinons par exemple le cas de la candidate Marine Le Pen lors de l'élection présidentielle française de 2017. Qualifiée pour le second tour, la représentante du Front National affronte son concurrent, le futur président Emmanuel Macron, au cours du traditionnel débat télévisé. Celui-ci restera dans les annales comme l'un des plus déséquilibrés de la Ve République. Agressive, excessive, approximative, de son propre aveu, Marine Le Pen sort de l'affrontement perdante et affaiblie. Après une brève période de vacances, lorsqu'elle retrouve le chemin des plateaux de télévision, les spectateurs ont la surprise de la découvrir changée. Des lunettes lui ont poussé pendant l'été. Elle ne quittera ce nouvel accessoire que de longs mois plus tard, quand sa crédibilité politique aura été partiellement rétablie. Cette inflexion stylistique ne devait rien au hasard. La candidate vaincue savait qu'elle avait abîmé son image de compétence. Mobiliser l'effet de halo était un moyen de contribuer à la restaurer. Pour les oratrices et les orateurs, ce biais cognitif apparaît comme un outil capital. Il nous offre l'occasion de modifier subtilement l'image que nous renvoyons et ainsi d'accroître de manière parfois déterminante notre force de conviction. Nous devons donc bien comprendre les deux dimensions sur lesquelles il se déploie principalement, les caractéristiques physiques d'une part et vestimentaires d'autre part. 2. Les caractéristiques physiques. En 2005, le psychologue Alexander Todorov et son équipe publient les résultats d'une expérience troublante. Elle utilise les résultats des élections parlementaires américaines, où chaque circonscription est le théâtre d'un duel entre un démocrate, gauche, et un républicain, droite. Les chercheurs ont placé côte à côte, par pair, les portraits de candidats s'étant effectivement affrontés lors des élections de 2000, 2002 ou 2004. Ces couples de photos sont ensuite présentés à des participants volontaires dont on vérifie d'abord qu'ils ne connaissent ni l'un ni l'autre de ces responsables politiques locaux. Puis, on leur pose la question suivante. Laquelle de ces deux personnes vous semble la plus compétente? Les résultats sont impressionnants. Dans la majorité des cas, l'individu jugé spontanément le plus compétent est aussi celui qui a effectivement gagné l'élection. Cette expérience a été reproduite avec succès à de nombreuses reprises. La conclusion à en tirer est implacable. Les personnes dont les traits du visage dégagent une forte impression de compétence ont significativement plus de chances de remporter une élection. Nous voudrions croire que, lorsque nous plaçons un bulletin dans l'urne, notre choix est uniquement guidé par des considérations politiques. Le programme des candidats, le bilan dont ils peuvent se prévaloir, ce que l'on sait de leur probité. La réalité est tout autre. Notre vote est, pour partie au moins, déterminé par l'apparence physique. Pire même, cette dimension de la décision nous échappe très largement. Alexander Todorov a répliqué son expérience en ne montrant les portraits que pendant un très court laps de temps, un dixième de seconde. Trop peu donc pour que les participants aient le temps d'analyser consciemment ce qu'ils voyaient. Les résultats demeurent globalement inchangés. Nous ne nous contentons pas de voter à la tête des candidats, nous le faisons sans même nous en rendre compte. Enfin, des études ultérieures ont permis d'identifier quels sont les traits du visage qui tendraient à suggérer la compétence. Il en ressort qu'un visage carré, des pommettes hautes, des sourcils bas et une mâchoire saillante ne sont pas seulement d'anodines caractéristiques physiques, mais bien de redoutables atouts politiques. Les travaux d'Alexander Todorov sont loin d'être les seuls à avoir mis en évidence une influence déterminante de l'apparence physique. D'autres études se sont, par exemple, concentrées directement sur l'impact qu'a la beauté sur les relations sociales. Là aussi, les résultats sont frappants. De nombreuses expériences ont montré que les individus considérés comme beaux sont aussi perçus globalement comme plus sociaux, plus puissants et plus compétents. Ils reçoivent plus facilement de l'aide lorsqu'ils en ont besoin. S'ils sont confrontés à la justice, ils ont tendance à être moins facilement jugés coupables et, quand ils sont condamnés, écopent d'une sentence moins sévère. Enfin, pour ce qui nous intéresse directement, une étude a montré que les personnes jugées belles emportent plus facilement la conviction de leurs interlocuteurs. Cet impact massif de la beauté sur les interactions sociales est une application directe de l'effet de halo. Il a été synthétisé en une formule cruelle mais éloquente : ce qui est beau nous paraît bon. La beauté des individus demeure, il est vrai, une variable délicate. Nous savons que, d'une société à l'autre, ses critères et ses normes varient considérablement et impliquent toujours une part de subjectivité très importante. Or, il existe d'autres variables physiques qui activent l'effet de halo tout en pouvant être mesurées objectivement. La première et la plus évidente est la taille. Des études récentes ont prouvé que, dans le monde du travail, les personnes plus grandes tendent à être perçues comme plus imposantes, obtiennent de meilleures promotions et gagnent davantage d'argent. Ce qui est grand nous paraît puissant, voici de nouveau un authentique effet de halo. Le même type de remarque peut être avancé pour la voix. Elle est également une variable objective, puisqu'il est possible de mesurer sa hauteur avec précision. Une série de travaux montre que les individus parlant dans une tonalité plus grave tendent à être perçus comme plus forts, plus attirants, plus dominants et plus compétents. Conséquence logique, lors des élections, la voix des candidats semble avoir une influence directe et significative sur le résultat qu'ils obtiennent dans les urnes. Une grande taille, une voix grave, un visage anguleux saupoudré d'un soupçon de beauté, si de bonnes fées pouvaient se pencher sur le berceau de notre bébé, voilà ce qu'il faudrait leur demander. Ensemble, ces attributs dessinent le portrait robot d'un individu qui, baigné d'un effet de halo, sera plus facilement perçu comme compétent et dominant et verra ainsi les portes du succès s'ouvrir grand devant lui tout au long de sa vie. Soyons francs, de tels résultats ont de quoi être déprimants. Nous avons toutes et tous chevillé au corps l'idéal d'une société démocratique où l'argumentation primerait sur toute autre considération. Nous aimerions croire que nous avons les mêmes chances de faire entendre notre point de vue, valoir nos arguments et triompher notre position. C'est la définition même de l'égalité. Hélas, les conclusions d'un demi-siècle de recherche en psychologie sont inexorables. Nous devons accepter d'en faire le deuil. Confrontés à la nécessité de convaincre, certains sont privilégiés. Prenons garde toutefois à ne pas surestimer les implications de ces résultats. Subir l'inégalité ou en jouir n'implique en aucun cas d'être déterminé par elle. Dans les interactions sociales, les caractéristiques physiques des individus entrent en ligne de compte, mais au même titre que bien d'autres éléments, l'argumentation, l'éloquence, la détermination. Qu'il s'agisse d'emporter une élection, de clamer son innocence ou d'obtenir une promotion, l'effet de halo confère certes un avantage, mais ne garantit jamais le succès. En termes sociologiques, on dit que les caractéristiques physiques expliquent une part de la variance dans les entreprises de conviction. Il est toujours possible de chercher à agir sur l'une ou l'autre de ces variables. L'un des exemples les plus spectaculaires et les mieux connus est celui de la chef d'État britannique Margaret Thatcher. Dès le début de son mandat de première ministre, elle a senti que sa voix fluette allait être un lourd handicap dans l'exercice du pouvoir. Elle s'est alors entraînée à parler bien plus grave que sa tonalité naturelle, allant même, selon toute vraisemblance, jusqu'à endommager durablement ses cordes vocales. Autre cas bien documenté, celui du président de la République française, Nicolas Sarkozy. Relativement petit de taille, il existe de nombreux clichés prouvant qu'il avait recours à tous les artifices pour tenter de paraître plus grand. Il mettait des chaussures à talonnettes, se hissait sur la pointe des pieds pour les photos de groupe et, même, utilisait un petit tabouret caché derrière le pupitre lors des conférences de presse. Margaret Thatcher et Nicolas Sarkozy avaient compris, l'une comme l'autre, qu'ils jouaient à un jeu inéquitable et tentaient de combler, autant que possible, les désavantages rhétoriques dont la loterie génétique les avait affublés. L'effet de tels subterfuges demeure toutefois irrémédiablement limité. La plupart du temps, les inégalités physiques entre oratrices et orateurs s'imposeront à nous, purement et simplement, pour le pire ou pour le meilleur. Faute de pouvoir les compenser, il nous faudra donc apprendre à composer avec elles, en travaillant davantage notre rhétorique, bien sûr, mais aussi en jouant sur l'autre dimension de l'effet de halo, l'apparence vestimentaire.